France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir au bruit et autres environnements sonores quand ils nous perturbent, le trafic routier en particulier. On verra ce soir à quel point cela peut provoquer du stress et de l'anxiété. On s'intéressera aussi à quelques mesures prises pour protéger nos oreilles et donc notre santé générale. Des réductions de vitesse ici ou là, ou encore un projet de radar anti-bruit baptisé Hydre, de nouveaux mouchards capables d'identifier précisément l'origine des nuisances au-delà de 85 décibels. C'est en projet. Et puis nous n'oublierons pas d'évoquer aussi les bruits du voisinage. Quelles sont les règles d'ailleurs à respecter entre voisins? On vous raconte tout dans un instant. Une semaine en France, c'est aussi l'actualité des régions. Avec nos confrères des France Bleu, lundi il faudra dire ici, nous ferons étape dans le Poitou, le Béarn et la Picardie, là où deux villages, Picard donc, ont décidé de fusionner. Une semaine en France, vos préoccupations du quotidien, on en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux. Le 18-20.
Avec un premier témoignage, celui d'un homme au nord de Marseille qui se bat contre les nuisances sonores de l'autoroute notamment. Ça se passe à Septem-les-Vallons précisément. Bonsoir Pierre Galouin.
Bonsoir.
Vous êtes le délégué bruit chez France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, président de l'association Chute, CHUT. On va voir dans un instant comment la métropole, Aix-Marseille, compte lutter contre les nuisances sonores. Décrivez-nous d'abord, Pierre Galouin, à quoi ressemblent ces nuisances pour les riverains de Septem-les-Vallons?
Alors, pour les riverains, c'est un bourdonnement quand même assez intense. Au bruit s'ajoute le visuel de voitures qui filent. On est auprès de l'autoroute. Et avec ça, on a des pics, avec certaines motos qui passent, des sirènes de police, des camions. Donc, ça n'arrête pas. Et c'est particulièrement gênant. L'hiver, même l'hiver où on reste à l'intérieur, en fait, on va jardiner et à ce moment-là, au bout d'une heure, il faut rentrer. Et alors, l'été, quand il faut aérer les maisons, eh bien, la nuit notamment, eh bien là, on se précipite dans les parties, on isole à l'intérieur de nos maisons. Enfin, voilà, c'est un combat de tous les jours et c'est usant.
C'est usant, ça vous tape sur le système, évidemment, on va en parler tout à l'heure. Il y a les grands axes donc, qui entourent Marseille, il y a aussi le centre-ville de Marseille, qui est décrit lui aussi comme l'un des plus bruyants de France, vous confirmez ça?
Oui. Il suffit de se promener dans Marseille, ou de travailler à Marseille. Et dans les bureaux, on peut pas travailler les fenêtres ouvertes, c'est pas possible. Par exemple, le tramway, qui est une mesure positive, mais le tramway, on entend son roulement assez sourd, les dong-dong quand il y a les changements d'aiguillage, les klaxons qui sont là tout le temps, les accélérations. Franchement, Marseille a vraiment quelque chose à relever de ce côté-là.
La voiture reine, pourquoi est-ce que ce serait plus particulièrement vrai à Marseille, plus qu'ailleurs? Pourquoi?
Bon, je vais pas tomber dans les clichés, mais il y a quand même une part de vérité qu'on a peut-être plus... on s'identifie plus avec sa voiture, on utilise davantage la voiture. Il y a aussi peut-être des transports en commun qui sont moins bien organisés qu'ailleurs.
À Marseille, les transports en commun moins bien qu'ailleurs?
Ah oui, par exemple, la ligne de tramway longe la ligne de métro. Alors donc, c'est comme si, vous voyez, ils sont l'une en face de l'autre. Il y en a une qui est sous terre, mais l'autre est en surface. Donc en fait, il y a des quartiers qui sont moins bien desservis. Donc il faut prendre sa voiture, mais surtout les deux roues. Il y a beaucoup de deux roues parce qu'on est très encombré. Et les deux roues sont plus bruyants que les voitures. Mmh. Ils ont le moteur à l'extérieur. Même lorsqu'ils sont aux normes, qu'il n'y a pas de le pot n'est pas trafiqué, Il y a davantage de roues émet davantage de bruit qu'une voiture.
Le mois dernier, la métropole de Marseille a lancé un plan de prévention du bruit dans l'environnement. Un plan qui vise donc à réduire la pollution sonore sur la route, mais aussi sur le rail, vous en parliez, et même dans les airs. Quelle ambition accordez-vous à ce prochain plan ?
Mon avis est vraiment mitigé. La métropole de Marseille, parmi les collectivités publiques qui font un plan de prévention du bruit, à savoir l'État, le département et puis la ville de Marseille, son plan de prévention dénote parce que ils ont essayé d'avoir une vue d'ensemble.
Une vue d'ensemble, quand on fait un plan, c'est un petit peu l'étape obligée.
Alors justement, je précise, c'est-à-dire qu'ils ont repris dans leur plan des mesures qui étaient envisagées par d'autres collectivités, par le conseil départemental, par la ville de Marseille, etc., par d'autres communes. Donc il y a la volonté, parce qu'ils ont un observatoire sonore du bruit, d'aller un peu plus loin que leur ligne de course. Alors que l'État, lui, son plan de prévention, c'est juste sur les autoroutes ou les voies ferrées. Le département, ça n'est que les routes départementales. Et encore, tout en disant qu'il en a donné d'autres à gérer par la métropole.
Au final, vous aimeriez Oui, je vous en prie, allez-y.
Il y a quelque chose aussi qui les distingue, c'est que la métropole est la seule collectivité qui ait osé pointer le problème du bruit. Les autres collectivités ont lancé leur plan de prévention du bruit avec une petite affichette dans la Provence, dans les annonces légales. Quelque chose qui fait à peu près 5 cm sur 5 cm. Et heureusement qu'à France Nature Environnement, on a des bénévoles qui scrutent tous les jours les annonces légales, les enquêtes publiques, etc. Et donc là, on voit ça.
Et si vous étiez plus associé aux décisions, que feriez-vous de différent pour stopper les nuisances sonores autour de Marseille ?
On reverrait tout dans le détail et en continuité. Donc, effectivement, dans l'Observatoire sonore du bruit, où les associations ont été invitées une seule fois en 10 ans, il est prévu, dans le nouveau plan, qu'on va être réunis une fois par an. Quelle grande avancée ! En fait, c'est une fois par mois qu'il faudrait maintenant pour rattraper le temps perdu. Mais déjà... Le fait que la métropole ait un observatoire sonore du bruit et qu'elle essaye d'ouvrir ça, c'est un point positif. Donc on a du mal à vouloir les critiquer. Et pourtant, sur ce plan de prévention du bruit, regardez, il arrive avec 1 an de retard. L'échéance 3, c'est-à-dire le précédent, il se termine en 2023. On est en 2024, ils en sont à débuter la consultation.
Merci bien. Merci, je vous ai coupé un peu brutalement, mais je voulais vous laisser terminer votre phrase. Mais on a bien compris que vous aimeriez être un peu plus associé aux prises de décision du Grand Marseille quand il s'agit du bruit, et que ça aille aussi bien plus vite. Merci beaucoup Pierre Gallouin, délégué bruit chez France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, et votre association dont vous êtes le président s'appelle Chute, CHUT. On va quitter le sud de la France pour le nord. Nous partons à Canfin en Carambeau, c'est près de Lille. Les 1800 habitants de ce village vivent un enfer depuis qu'une célèbre application de circulation GPS conseille aux conducteurs de traverser cette commune, devenue donc un itinéraire bis du très fréquenté autoroute A1. Quand les riverains envisagent de déménager à cause du trafic routier, c'est un reportage sur la route, signé Guy Vanctil.
Nous voilà à Canfin, en Carambeau, dans le nord. Son église, ses maisons en briques rouges, son monument mort et sa mairie.
Alors, je suis Mathieu Lestocquois, le maire de la commune de Canfin en Carambeau. On se situe à 20 km de Lille, 20 km de Lens et 20 km de Douai. C'est une commune charmante, ça c'est le maire qui vous parle.
Sauf que voilà qui est arrivé cette application.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a donc une départementale qui traverse notre commune parallèle à l'autoroute 1. Et ce qui fait que lorsque l'autoroute 1 est bouchée, alors par un accident ou par le flux journalier des véhicules, hein, c'est l'autoroute le plus fréquentée en Europe, il y a un report qui est accentué par notamment les applications type Waze et autres, et qui reporte sur Canfin.
Vous avez fait mesurer ça ?
Alors oui, on a fait mesurer, on arrive à 14 000 véhicules jour en moyenne. Donc
14 000 véhicules dans un petit village de 1800 habitants.
Oui, c'est ça, c'est vrai que les chiffres peuvent donner le tournis. D'ailleurs, le surnom de la départementale, c'est l'autoroute bis. Donc je voudrais lui enlever ce nom qui ne lui va pas très bien.
Direction Canfin, Carambeau, 1800 habitants.
Ici, ce village, en fait, est devenu une petite autoroute.
Camions, motos, SUV.
Ce raccourci est devenu très prisé.
L'itinéraire bis favori des automobilistes.
Élus et riverains dénoncent un trafic routier devenu insupportable.
14 000 véhicules jour, un enfer pour les habitants.
Et un bruit de moteur ininterrompu et insupportable pour les riverains
qui ont vu leur tranquillité s'envoler.
Voilà, une riveraine qui passe avec ses enfants.
Et qui salue monsieur le maire, voilà, c'est le charme des villages.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes une riveraine
Oui, une canfinoise, oui. Christine.
Christine, là je vous attrape dans la rue, on s'entend à peu près, mais cette rue, c'est toute une histoire ici.
Oui, oui, c'est clair. Moi j'habite ici depuis presque 13 ans maintenant. Et effectivement, ça circule surtout le matin et le soir. Donc c'est clair, surtout ben, la maison. Je ne peux pas ouvrir les fenêtres de ma salle à manger parce que ça fait vlan, vlan, vlan. On entend toujours ce bruit-là, quoi, en fait. Donc.
Et là, encore, aujourd'hui, c'est calme, là ?
Oui, c'est calme parce que c'est les vacances. Mais voilà, lundi, c'est la rentrée. Et là, c'est reparti dans les bouchons.
Tout ça, c'est à cause d'une application ?
Bah oui, oui. Moi-même, je travaille sur l'île. Quand je rentre chez moi, bon, je suis l'application, hein, je lui fais confiance. Et des fois, justement, elle m'évite de passer par ici. Elle me fait passer par Goncourt, justement, pour éviter les bouchons dans ma rue. Donc, dans ma propre rue, voilà.
Et vous savez, est-ce que vous avez contacté Waze, cette fameuse application-là qui vous envoie ce flot de bagnoles dans votre village ?
Ah, vous savez, c'est un petit peu David contre Goliath. Ouais. J'ai écrit à tout ce qui pouvait exister en réseau. Malheureusement, je ne suis que le maire d'un petit village de 1800 habitants et on se sent des fois bien seul par rapport à de telles applications.
Au géant de la Silicon Valley.
Je vous l'avouer, on a eu deux réponses et c'était des réponses pas satisfaisantes. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec un bureau d'études depuis 3 ans pour trouver des solutions à cette départementale. On a un achat de parcelles aussi qui a été fait pour faire une voie de délestage. On va mettre des feux intelligents avec de la micro-régulation. Donc vous voyez, là il faut que je porte la voix parce qu'un camion est en train de passer. Le charme des bourgs de villages de
France. Un deuxième.
Un deuxième. Vous le voyez, là je suis obligé de forcer un petit peu la voie dès qu'il y a un véhicule qui s'arrête et qui redémarre. C'est pas supportable. Bon, toutes ces fenêtres là qui nous regardent autour de nous, ouais. C'est des vies, c'est-à-dire que c'est un enfant qui dort, c'est une personne âgée, c'est quelqu'un qui a besoin de repos parce qu'il a travaillé la nuit. C'est, voilà, ces gens-là, on leur perturbe leur existence. Il faut aussi voir à ce qu'on fasse un équilibre avec le bien-être de nos habitants.
Bonjour monsieur. France Inter.
Je vous attrape là. Vous lisez sur mes lèvres.
Oui.
Je fais un reportage sur le bruit et les bagnoles.
M'en parlez pas.
Pourquoi ?
Je suis à Canfin depuis bientôt 70 ans. Là. C'est bien au niveau du bruit, c'est infernal quoi. C'est infernal.
Et c'est vrai que le bruit, ça tape sur le système.
Complètement. Complètement. Là actuellement, on a encore des amis qui habitent à côté. Ils voudraient revendre parce qu'ils en ont marre. Quoi. Ils en ont marre. Catastrophe.
Donc là ici, là où on avait les stops, ce sera finalement un plateau surélevé avec un changement de couleur, avec un marquage sécurité beaucoup plus important.
Tout ça pour ralentir le flot de véhicules.
Absolument. En fait, c'est un feu intelligent qui va prendre les vitesses et qui va être à récompense en disant on passe pas, on va trop vite, hop, on s'arrête.
C'est ça un feu intelligent ?
C'est ça un feu intelligent. Donc finalement, contrer l'algorithme.
Parce que l'algorithme pensait qu'il y a un embouteillage.
Exactement. En fait, à chaque véhicule qui s'arrête, pour lui, l'algorithme, le véhicule est à l'arrêt, même si c'est 1 seconde ou 2 secondes. Et en fait, c'est en ça où, avec juste un peu de peinture et des panneaux, finalement, je vais utiliser un peu l'intelligence artificielle, vous voyez.
C'est retourner contre l'algorithme de Waze.
Exactement, c'est voilà, de troller l'intelligence artificielle.
Mais alors du coup, ça fait un investissement tout ça pour pallier à l'envie de rapidité des usagers de l'autoroute qui préfèrent prendre cet itinéraire bis qui passe par votre village.
Alors oui, sur un kilomètre de voirie, on est à 1 300 000 euros, donc c'est un coût non négligeable. Moi, les travaux, clairement...
Vous n'auriez pas eu à sortir s'il n'y avait pas cette application.
Absolument. Et heureusement que j'ai le département qui vient subventionner à hauteur de quasiment 65% ce projet. Sinon, seul, je ne pourrais que prendre une chaise et regarder passer les camions.
Voilà donc pour ce reportage de Guy Vanctil dans ce village qui voit passer donc un incessant balai de voitures, de camions et de motos. Ça tape sur le système, on vient de l'entendre dire ça à un riverain. Eh bien justement, quelles conséquences pour notre santé? C'est à vous qu'on va poser la question. Anne-Sophie Évrard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes épidémiologiste et vous avez été parmi les pionnières à vous intéresser aux effets subis par notre corps quand il est exposé au bruit. On a compris que ça, c'est toujours une forme de stress, hein, voire d'anxiété qui se met en place avec le bruit. Avec quelles conséquences au final ?
Alors, il faut savoir déjà que seul le bruit des transports, d'après l'OMS, a été l'objet de suffisamment d'études pour dire qu'il a des effets avérés sur la santé des êtres humains et également de la biodiversité. D'après le dernier rapport de l'OMS, donc les lignes directrices dont la dernière mise à jour date de 2018 et qui était basée sur une revue de la littérature qui s'arrêtait fin 2014, les effets avérés du bruit des transports sont loin devant les perturbations du sommeil, suivies de la gêne due au bruit, et puis ensuite viennent les maladies cardiovasculaires et la dégradation des performances cognitives chez les enfants.
Du stress, y compris quand on pense ne plus y faire attention, un bruit environnemental, ce ronron, ça continue de nous polluer le cerveau, même à notre insu?
Oui, tout à fait. Par exemple, on le voit très bien dans les perturbations du sommeil. Quand on s'intéresse à cet effet-là à partir de questionnaires, des participants peuvent très bien nous dire « Ben non, moi je me suis habitué, le bruit n'a plus d'effet sur mon sommeil. » Mais quand on va mesurer les paramètres du sommeil de manière objective avec des outils qui sont dédiés à cette mesure, on peut constater que, en fait, non, cette personne ne s'est pas habituée au bruit et que son sommeil est encore perturbé.
Pour être très précise, Anne-Sophie Évrard, quand on parle du sommeil et du bruit, est-ce que vous parlez du sommeil pendant qu'on, pardon, du bruit pendant que nous dormons, ou est-ce que c'est une exposition au bruit le jour qui peut aussi avoir des conséquences sur notre sommeil la nuit ?
Alors pour l'instant, dans les études, on ne sait pas trop, mais il semblerait que non seulement l'exposition au bruit pendant son sommeil, mais également l'exposition au bruit pendant sa journée pourrait contribuer à avoir des effets sur la santé.
Notamment les systèmes cardiovasculaires.
Pour l'instant, je vous ai dit, dans les maladies cardiovasculaires, dans le dernier rapport de l'OMS de 2018, seules les cardiopathies ischémiques étaient considérées comme un effet avéré du bruit routier notamment. Mais depuis, donc depuis 2015, un certain nombre d'études s'accumulent et tendent à montrer des effets sur le risque d'hypertension, notamment. Et on retrouve également aussi de plus en plus d'études qui démontrent une augmentation du risque sur le système métabolique, avec une augmentation du risque d'obésité et du risque de diabète de type 2.
Vous parliez des enfants, on peut s'y arrêter deux secondes. Habiter trop près d'un aéroport, d'une gare routière ou bien d'une autoroute, avec les désagréments qu'on a déjà évoqués, ça peut donc avoir des conséquences cognitives, disiez-vous, chez l'enfant, par exemple?
Oui. En fait, il y a eu une énorme étude qui a été menée au Royaume-Uni qui s'appelait RANCH, qui date un petit peu maintenant. Je pense qu'elle doit avoir pas loin d'une quinzaine, voire vingtaine d'années. Et en fait, elle s'était intéressée à l'exposition au bruit des avions, notamment lorsque les enfants se trouvent à l'école. Et en fait, les chercheurs ont constaté que les enfants les plus exposés avaient plus de difficultés dans l'apprentissage de la lecture notamment et dans la mémorisation. Et ils ont reproduit cette étude sur les mêmes enfants quelques années après, et ces effets, cette dégradation de l'apprentissage subsistait plusieurs années après.
Anne-Sophie Évrard, vous restez avec nous et on va continuer de parler des bruits qui nous ruinent les oreilles et donc notre santé.
Je pourrais quand même juste une dernière phrase sur le bruit.
On va revenir à vous dans deux minutes. Je reviens vers vous dans deux minutes. Voici Léonie Pernet. Ça commence par le piano sur Inter. Elle ambitionne de réparer le monde, rien de moins. C'était Léonie Pernet sur France Inter et merci à Djoubaka pour la programmation musicale. La suite d'une semaine en France consacrée à ce bruit environnemental qui nous fatigue et qui peut nous ruiner la santé. Anne-Sophie Evrard, on vous retrouve. Je rappelle que vous avez été une pionnière sur l'étude du bruit et ses effets sanitaires. Ce serait donc une question évidemment de santé publique dont les ravages sont bien plus insidieux que ce qu'on l'imagine. Par exemple, bruit et cancer du sein, est-ce qu'il existe des études qui ont fait un lien ?
Alors oui, ces études sont très récentes, hein, ça fait quelques années seulement, je dirais moins de 5 ans, que les pays nordiques ont été les premiers à s'intéresser à l'association entre exposition au bruit des transports et risque de cancer du sein chez la femme. Ceci grâce au registre de cancer qu'ils ont la chance de posséder et au registre de population qui leur permettent de reconstruire toute l'histoire résidentielle de leurs participants. Et oui, une étude a montré un lien entre l'exposition au bruit des transports et le risque du cancer du sein chez la femme.
Et est-ce que cette pollution sonore est suffisamment prise au sérieux par les pouvoirs publics ?
En fait, je voudrais quand même mentionner un chiffre avant de répondre à votre question.
Allez-y.
Que l'Organisation mondiale de la santé a établi que 1 million d'années de vie en bonne santé seraient perdues chaque année en Europe occidentale à cause du bruit des transports. Et en fait, ce chiffre permet de montrer que le bruit représente le deuxième problème environnemental majeur pour la santé publique après la pollution de l'air. Et malheureusement, comme le président de l'association Chute l'a dit tout à l'heure, on a quand même l'impression de voir moins d'actions publiques pour lutter contre le bruit, alors que c'est quand même le deuxième problème environnemental majeur. Et le bruit et la pollution de l'air partagent en plus la même source, hein, qui est les transports. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que agir sur la pollution, eh bien, on pourrait également agir en même temps sur le bruit.
On parlait des enfants tout à l'heure. Je voudrais vous faire part de cette remarque d'un auditeur sur WhatsApp qui nous redit que les enfants sont exposés au bruit, notamment dans les crèches. Évidemment, les professionnels le subissent aussi. Est-ce que les crèches font suffisamment d'efforts pour, de votre connaissance, pour limiter le bruit pour les enfants?
Alors, je vous avoue que je connais pas très bien ce domaine, mais il me semble qu'il faudrait se retourner vers le CNB, qui est le Conseil national du bruit, qui l'année dernière a remis différents prix pour des recherches ou des actions de lutte contre le bruit. Et certaines crèches mettent effectivement en œuvre certaines mesures pour essayer de lutter contre ce fléau.
Vous disiez que les pouvoirs publics n'étaient pas assez promptes à réagir à cette pollution sonore. Qu'attendriez-vous d'une réelle prise en compte du bruit dans les politiques de santé publique ?
Bah, qu'il soit effectivement mieux pris en compte et qu'on le mette pas forcément de côté, et puis effectivement qu'on essaye non seulement de réduire le bruit à la source, mais qu'on essaye aussi, pourquoi pas, de prendre d'autres mesures. Par exemple, on sait que le bruit, l'exposition au bruit augmente la gêne, mais on sait que dans la gêne, deux tiers de cette gêne est expliquée par des facteurs qui ne sont pas des facteurs liés au bruit. Et donc, on pourrait essayer d'agir sur ces facteurs pour diminuer les conséquences du bruit. Je vous donne par exemple un exemple. L'attachement au quartier, pour un même niveau de bruit, des gens qui vont se sentir bien dans leur quartier parce qu'ils ont un accès facile aux transports en commun, à des commodités, à des magasins, etc., ils auront tendance à se déclarer moins gênés que des gens qui ne sont pas du tout attachés à leur quartier. Donc c'est d'autres moyens d'agir que d'agir à la source, et il faudrait essayer d'aller plus dans cette voie-là.
Et sommes-nous égaux face au danger du bruit, ou bien est-ce que certaines personnes sont mieux armées que d'autres ?
Eh bien, on est en train de commencer à s'intéresser à cette problématique-là en regardant effectivement si certaines caractéristiques individuelles ne feraient pas que certaines personnes pourraient être plus vulnérables aux effets du bruit sur la santé. Par exemple, on s'intéresse à la sensibilité au bruit. Alors la sensibilité, pour l'instant, tous les chercheurs ne sont pas complètement d'accord sur une définition universelle, mais ça pourrait être quelque chose qui aurait trait à la personnalité et qui serait plus en lien, en fait, à une sensibilité aux différentes nuisances environnementales. Et en fait, les outils qui existent actuellement pour mesurer cette sensibilité ont tendance à montrer que les personnes qui se disent plus sensibles au bruit et donc à l'ensemble des nuisances environnementales ont tendance à être plus vulnérables à ces effets.
Un dernier mot, on a parlé des sons qui nous font du mal. Il y a aussi des sons qui nous font du bien, non ? Des sons qui nous apaisent à l'inverse ?
Oui, alors ça aussi, la recherche commence à s'intéresser à ces effets-là. Et donc, introduire davantage d'espaces verts, des parcs en ville, qui vont faire revenir des oiseaux notamment, ou alors introduire des bruits d'eau avec des cascades, des jets d'eau, etc.
Il y a des bruits qu'on aime plus que d'autres, donc.
Et voilà.
Merci
beaucoup. Certaines études montrent que ça a tendance à contrebalancer les effets négatifs du bruit.
Merci de cette explication, Anne-Sophie Evrard. Une semaine en France, ça continue, et merci à l'équipe de ce soir. Laurie Licarive à la rédaction en chef, Maria Pesquet à la réalisation et Capucine Aubert à la préparation. Il est 17h47. 18h47.
France Inter. Le 18-20.
À 18h47, le bruit, pour vous dire que c'est aussi une source de conflit entre voisins, bien souvent même une incompréhension mutuelle. Nous sommes en ligne avec Anne Layaï. Bonsoir.
Oui, Anne Layaï.
Anne Layaï, pardon d'écorcher votre nom.
Non, mais ça ne fait rien. Vous êtes bienvenue. Bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes la présidente de l'association Anti-Bruit de Voisinage. Quelles sont les nuisances sonores les plus fréquentes entre voisins ?
Écoutez, elles sont nombreuses, malheureusement. Hein. Notre association qui s'intéresse à ces bruits depuis 44 ans le sait bien. Alors, vous avez dans cette catégorie de bruits de voisinage toutes les nuisances sonores, sauf celles des transports et leur infrastructure, les bruits au travail et les installations nucléaires. Donc, tout ce qui reste, ce sont les bruits des comportements, les bruits d'activité professionnelle, les bruits d'activité sportive et de loisirs.
Et que vient-on vous demander le plus souvent quand on prend contact avec votre association anti-bruit de voisinage ?
Oui, eh bien, ce sont, il y a les cris d'animaux, de compagnie, les appareils de diffusion de son, les appareils électroménagers, les climatiseurs, les pompes à chaleur, le bricolage, jardinage, les jeux bruyants, les bruits occasionnels de fêtes et soirées familiales. Alors, la liste n'est pas exhaustive, loin de là.
Évidemment.
Hein. Évidemment, donc c'est tout ça qui nous arrive. Mais ce qu'il faut savoir, pour ces bruits dits de comportement, et pour les prouver, la loi n'exige pas de mesurage des niveaux sonores. Les constats à l'oreille, complétés par les autres preuves, doivent suffire.
Ça veut dire qu'on ne peut pas prouver une nuisance sonore entre voisins ?
Si, on peut le prouver par d'autres moyens.
Comment ?
Par des démarches rigoureuses. Alors tout d'abord, il faut privilégier les démarches amiables et aimables. D'une part, pour avoir une chance de régler au mieux le problème rapidement, directement avec le fauteur de bruit. Et d'autre part, pour en profiter d'accumuler justement les preuves de ces démarches elles-mêmes qui sont obligatoires et les preuves de la source de l'existence des pollutions sonores que l'on subit.
Ça veut dire que vous favorisez pour votre association anti-bruit toujours la médiation entre voisins ? Ça se termine plutôt bien en général ?
La médiation, la conciliation aussi, hein, via un conciliateur de justice, qui est une démarche gratuite via les mairies. Alors, si on a la chance d'avoir un fauteur de troubles très ouvert, on arrive au niveau de la démarche amiable à réduire le problème ou à le faire disparaître. Mais si la situation n'a pas évolué, en dernier recours, avec toutes les preuves dont je peux vous parler après toutes les preuves accumulées, il reste bien sûr la voie de la justice.
Donnez-nous un exemple, juste un exemple de preuve.
Un exemple de preuve. Alors, il faut savoir que en France, hein, la victime est obligée de produire ses preuves. Alors, les preuves concrètes, ce sont toutes les démarches que l'on a faites par écrit au fauteur de bruit, les lettres recommandées, accusées de réception, avoir fait des copies à la municipalité, qui est en général l'administration directement concernée.
Vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut toujours monter un dossier avec des preuves à l'appui. Un mot sur les tondeuses. Qui définit les créneaux horaires des tondeuses dans les communes ?
Les créneaux horaires sont définis par des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux. Hein. Mais le texte de loi générale est clair. On n'a pas le droit de nuire à la tranquillité, à la santé de ses voisins de jour comme de nuit. Alors, on entend souvent parler du 22 heures, mais ça c'est un mythe, hein, ainsi que des idées préconçues comme « je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi ».
Merci.
Eh ben non, c'est pas tout à fait vrai.
Merci de ce témoignage. On est obligé, malheureusement, il y a du bruit, mais il y a aussi le temps qui tourne, la pendule. Merci de ces précisions, Anne Lahaye, présidente de l'association Anti-Bruit de Voisinage. Dans un instant, le multiplex, l'actualité en région avec les France Bleues. Nous irons dans le Poitou, le Béarn, la Picardie, qui vient de se doter d'une nouvelle commune. On en parle après cette pause musicale. Voici Donovan sur France Inter. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out DC, but I've changed my way. It'll take time, I know it. Style, 'cause I'm Sunshine Superman, c'était Donovan.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région, c'est le multiplex. Avec l'indispensable concours des France Bleues, à partir de lundi, nous dirons ici, eh bien, nous sommes en ligne avec les journalistes, aujourd'hui encore, de France Bleu Poitou, France Bleu Béarn Bigorre et France Bleu Picardie. Bonsoir à tous les trois. À Poitiers, Vincent Hulin, cette entreprise prête à envoyer à Mayotte des appareils pour filtrer l'eau.
Oui, Eric, absolument. Le nom de cette machine, c'est Filtralife. L'idée est née dans la tête d'un ingénieur poitevin récompensé de la médaille d'or au concours Lépine pour cette invention révolutionnaire. C'est une machine qui n'a besoin ni d'électricité, ni de produits chimiques pour purifier l'eau, juste un petit peu d'huile de coude et le secret industriel de ces filtres. Il suffit de l'alimenter depuis une rivière ou n'importe quel point d'eau et mécaniquement, en actionnant son bras, l'eau ressort consommable après quelques instants d'un parcours à travers une multitude de filtres. Chaque machine qui coûte entre 6 et 8 000 euros peut ainsi fournir une centaine de litres par heure et une centaine de machines Filtralife, vous le disiez, sont prêtes à être envoyées à Mayotte. Il ne manque plus que le feu vert de la sécurité civile.
Oui, ce serait donc une solution idéale pour Mayotte à court comme à long terme, Vincent.
Oui, absolument, Eric, car si une grande partie de la population mahoraise est chaque jour, on le sait, un peu plus connectée au réseau d'eau qui est rétabli, pour autant, il faut filtrer cette eau qui peut contenir des métaux lourds comme le plomb dû au réseau de canalisation ou encore des bactéries et autres contaminations. Mais c'est aussi certains coins reculés qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Et là encore, cette fameuse machine peut servir dans le temps, d'autant qu'elle ne nécessite quasiment pas d'entretien à part nettoyer les filtres tous les 2 à 3 mois. Qu'on se le dise, la start-up Poitvine est dans les starts pour envoyer ces machines à Mayotte.
Après Poitiers, Pau à présent, avec vous Yannick Damon, les secours en montagne multiplient les appels à la prudence en raison de mauvaises conditions de neige propices aux glissades. Hein.
Oui, en ce moment, la montagne est particulièrement dangereuse à cause d'une neige vitrifiée après les très belles chutes de neige de la mi-décembre sur les Pyrénées. Il y a eu de la pluie jusqu'à haute altitude, ensuite des nuits très froides et la neige s'est changée en glace. C'est assez fréquent comme phénomène, Eric, mais là, en pleine vacances de Noël et de Jour de l'An, ça a eu des conséquences désastreuses. Toutes les activités de sport d'hiver sont devenues très périlleuses et les accidents se sont enchaînés. Des chutes à ski beaucoup plus douloureuses. La pratique des raquettes à neige à proscrire, elles n'ont aucune tenue sur la glace. Une simple balade à pied peut tourner à la catastrophe. En Béarn, une jeune fille de 15 ans a fait une glissade de 100 mètres, rendez-vous compte, sous la station de la Pierre-Saint-Martin. Elle a heurté des arbres et elle s'est arrêtée au bas d'une barre rocheuse. Et puis le premier de l'an a été dramatique avec la mort de 2 randonneuses en Haute-Garonne. On va heureusement vers une amélioration de ces conditions de neige. Un redoux s'est amorcé aujourd'hui avec de nouvelles chutes de neige attendues ici dans le week-end.
De Pau, une grande diagonale jusqu'en Picardie. Avec vous, Axel Labbé, voilà une nouvelle commune. Elle est née de la fusion de 2 communes voisines, Bussu-Bussuel et Yocou-Bussur.
C'est bien ça, Eric. 2 villages de l'ouest de la Somme qui comptent 550 habitants à eux deux et qui ont fusionné le 1er janvier pour devenir Bussu-les-Yaucourt. Alors, il en était question depuis plusieurs années, depuis les dernières élections municipales de 2020, en fait, quand Daniel Marcassin, le maire de Yaucourt-Bussu depuis 23 ans, a été contraint de se représenter, faute de candidat à sa succession. D'où l'idée de fusionner les 2 communes, avec à leur tête Mathieu Doyer, le maire de Bussu-Bussuel. Alors, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a 6 mois, un référendum référendum a été organisé. Il était d'ailleurs ouvert aux habitants dès 16 ans. 70% des votants se sont exprimés en faveur de la fusion. Il y a aussi eu une consultation pour choisir le nom de la nouvelle commune.
Et si les deux communes fusionnent, c'est aussi pour être plus fortes ?
Oui, on espère attirer davantage l'attention de la communauté de communes, expliquent les deux maires à France Bleu Picardie. Ils veulent se sentir plus forts et surtout, ils espèrent obtenir des subventions plus importantes. Par exemple, pour mettre en place un dispositif de prévention des inondations ou financer les travaux de rénovation de l'église de Yocourbussu. Ils espèrent aussi un regroupement des associations. Ça a déjà commencé. Le premier repas des aînés communs s'est tenu au mois de décembre et il a réuni près de 70 personnes.
Eh bien, merci à tous les trois pour ce multiplex avec les France Bleu que nous nommerons donc ici à partir de lundi. À suivre, le journal de 19h présenté par Charlotte Piret. Ce sera suivi du téléphone sonne consacré ce soir à l'inquiétant rebond du surendettement. J'attends vos questions, vos témoignages dès maintenant. 01 45 24 7000.